Encore une fois, ce matin, j'ai demandé à Martin Thériault, petit exercice. Marty, nomme-moi les 5 équipes qui ont le mieux performé dans les dernières semaines et les 5 équipes que tu es le moins satisfait de leur magasinage. C'est l'exercice que je lui ai soumis. On va lui demander ce qu'il en pense. Salut, Marty.
Hey, salut, Dezo, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très, très, très bien.
All right. 5 clubs qui ont bien fait depuis le repêchage. Je t'écoute.
Ouais, donc pour la première équipe, pas vraiment de surprise, hein, je suis allé avec les Golden Knights de Vegas. On sait que la transaction suivie de la signature de Mitch Marner, t'as pas le choix vraiment de les placer parmi les gagnants lorsque tu réussis un coup comme ça. Je comprends que ça a coûté Nicolas Roy, mais lorsque tu peux mettre la main sur un joueur qui a obtenu 102 points la saison dernière, que tu places avec Jack Eichel directement sur le premier trio, qui a signé un contrat de 12 millions de dollars par saison pour 8 ans, je comprends que c'est quand même beaucoup d'argent, mais pour un joueur de cette trempe-là, c'est quand même bon, mais pas simplement Mitch Marner. J'ai bien aimé également la transaction où on a envoyé Nicholas Hague du côté des Prédateurs de Nashville. Moi, personnellement, Hague, bon oui, c'est un bon défenseur défensif et tout ça.
Ouais, mais est-ce qu'il y a un contrat épouvantable?
Ben c'est ça, là, avec le contrat qu'il a signé du côté des Prédateurs de Nashville, moi je pense que c'est encore mieux de pouvoir s'en départir. Et t'as quand même obtenu un Jérémy Lauzon qui, oui, est moins bon, peut-être, mais quand même qui peut t'apporter un élément physique et tout ça. Et de toute façon, la défense des Golden Knights, Kelly McRaymond pouvait se permettre de réaliser une transaction comme ça. T'as quand même encore Noah Hanifin, t'as encore Shea Theodore, t'as encore Braden McNabb, t'as encore Zach Whitecloud. Donc, tu sais, t'as encore une excellente défense. Puis t'as même Kaiden Korzak, que les gens connaissent peut-être un peu moins, mais Korzak, c'est quelqu'un qui est prêt pour la LNH depuis environ 2 ou 3 ans, qui est quand même assez physique, qui est très bon défensivement, qui est bon dans son territoire et tout ça, 6 pieds 3 pouces. Et t'ajoutes quand même Colton Sesson du côté de l'attaque. Donc, tu sais, oui, il y a également... Oui, il y a la signature de Mitch Marner. Mais on a fait un paquet de petits gestes aussi qui ont été payants. On a redonné un contrat également à Riley Smith qui va t'amener de la profondeur peut-être au sein d'un troisième trio. Donc, essentiellement, j'aime bien le travail que Kelly McRaymond a pu faire avec les Golden Knights.
Là. Excellent, Marty. On va aller du côté des Panthers de la Floride.
Ouais, ben Panthers de la Floride, c'est pas très compliqué. On n'a pas ajouté énormément de choses. Hein. On a simplement ajouté Daniil Tarasov via transaction et Jeff Petrie via le marché des joueurs autonomes. Mais je pense que le coup de maître, puis c'est normal, lorsque tu as gagné 2 coupes Stanley de suite, c'est simplement de garder les choses en place. T'es en mesure de garder Alan Ekblad pour 6 100 000 $ par saison pour 8 ans. T'es en mesure de garder Sam Bennett, qui était très prisé, qui avait beaucoup de rumeurs que les équipes allaient se lancer vers lui. On sait que c'est la saveur du mois, Sam Bennett. T'as Brad Marchand qui demeure avec l'équipe. Donc, je pense que le fait simplement de garder le noyau en place, d'avoir encore les Barkov, les Reinhardt, les Sam Bennett, les Matthew Tkachuk, d'avoir les Forsling en défense, les Seth Jones, ben simplement ça, je pense que c'est un coup de maître en soi. C'est pas terminé, par contre. On est présentement 3 700 000 $ au-dessus du plafond salarial. Il y a peut-être Evan Rodriguez qui est à surveiller, mais connaissant Belzito, je pense qu'il va bien s'en sortir.
Ouais, puis tu sais, c'est intéressant. On peut pas les pénaliser parce que leur équipe était déjà très complète avant de s'amorcer dans la saison morte. Effectivement, ils partent comme favoris pour l'année prochaine. Une autre formation, Marty.
Ouais, donc je suis allé avec le Manute de l'Utah. Pas beaucoup de mouvement nécessairement, mais évidemment, la transaction de J.J. Peterka, je pense qu'elle était exactement à point pour le Mammouth. T'ajoutes un élément au sein du top 6, tu l'ajoutes potentiellement sur un deuxième trio, peut-être avec un Nick Schmaltz, peut-être avec un Barrett Hayton, un Logan Cooley. T'ajoutes exactement un morceau qui te manquait dans ta formation, non seulement à long terme, mais à court terme également. Et là, par la suite, on a ajouté quelques éléments, justement, de leadership. Ouais. Un gars comme Brandon Tanev, on sait à quel point il a été apprécié énormément avec le Kraken de Seattle. T'ajoutes Nate Schmidt, qui vient gagner une Coupe Stanley avec les Panthers. Le contrat peut être un peu long, par contre, mais au moins, t'ajoutes de l'expérience. T'ajoutes des éléments qui ont, dans le cas de Schmidt, gagné une Coupe Stanley. T'ajoutes Vitek Vanecek comme gardien de but adjoint pour seconder Karel Vemelka, mais avec le mélange un peu de jeunesse qui s'en vient, et justement quelques vétérans, quelques jeunes joueurs qui ont été en mesure de pousser avec la transaction Peterka, qui honnêtement, oui, Michael Kesselring, je le répète, c'est un excellent défenseur, c'est un gars qui bouge très bien la rondelle, qui est bon défensivement, mais on pouvait se permettre de le donner. Là. On a John Marino, on a Sean Dursey, là. C'était pas grave de le donner. Donc, je pense que là-dessus, là, Bill Armstrong a fait un bon travail.
Ouais, puis c'est du caractère. Hein. Je pense que ça s'inscrit très bien dans la lignée d'André Tourigny. Ça devrait bien fitter Tanev, Schmidt et compagnie avec le mammouth de Utah. Deux autres formations, Marty.
Ouais, le Kraken de Seattle au quatrième rang. Le Kraken, c'est pas compliqué. J'aime beaucoup comment on procède depuis qu'on est arrivé dans la Ligue nationale de hockey. On est méthodique, on prend les choses lentement. On espère que le noyau de jeunes joueurs se développe. Mais on ajoute toujours des éléments un petit peu qui ne coûtent pas trop cher parce que c'est des équipes qui veulent s'en débarrasser pour des raisons de masse salariale. On a été en mesure d'ajouter Mason Marchman à très peu de coûts.
Ouais, ça n'a rien coûté, ça. Ça n'a rien coûté. Ça, c'était un excellent deal.
Exactement. Là, t'amènes de la profondeur. T'amènes quelqu'un qui peut jouer sur un 2 ou sur un 3e trio, qui est physique également. Pour le style de séries éliminatoires, Marchman, t'es parfait. Tu pourrais le garder pendant, disons un bon 3 ou 4 saisons, et ce serait parfait. Frédéric Gaudreau, que t'ajoutes également dans une transaction avec le Wild du Minnesota, lui non plus n'a pas coûté grand-chose. Ça te donne un élément capable de gagner des mises au jeu, quelqu'un qui est bon défensivement, quelqu'un qui va être motivé, je pense, de se retrouver dans un nouvel environnement à Seattle. Moi, personnellement, j'ai énormément aimé la signature de Ryan Lindgren. Moi, je trouve que Lindgren, c'est un gars... Ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il est sous-estimé. Et à 4 500 000 $ pour 4 ans, moi, je pense que c'est l'un... C'est un gars un peu à la Chris Tanev. C'est un gars qui bloque des tirs. C'est un gars qui est très dur à affronter. Très, très bon dans ses couvertures. Pas de jeu offensif, mais c'est pas grave présentement dans la LNH. Ces genres de défenseurs-là ont la cote. Donc, lui, tu l'ajoutes potentiellement un Brandon Montour sur une deuxième paire. Je pense que c'est très bien et on n'a pas perdu grand-chose. J'aime bien le travail qu'on fait du côté de Jason Botterill et du Kraken.
Ah, je suis d'accord avec toi, Marty. Puis pour vrai, Ryan Lindgren, il n'était plus là. C'est sûr que les Rangers s'en allaient nulle part à la fin. Il était rendu avec le Colorado puis on le ressentait. Je pense qu'ils vont le regretter de l'avoir bougé. C'est un défenseur qui est très fiable défensivement puis qui peut t'apporter d'excellents services. Une dernière formation, Marty.
Ouais, ben là, finalement, naturellement, j'ai pas le choix de me tourner vers les Canadiens de Montréal. Donc, tu sais, beaucoup de... Encore une fois, j'aime beaucoup ce que Kent Hughes fait. Depuis qu'il est en place, là, je pense qu'il fait exactement ce qu'il faut. Il prend son temps avec les jeunes, il est méthodique, il ne va pas se lancer dans toutes sortes de choses simplement pour ajouter un joueur et tout ça. Il laisse de la place et il ajoute surtout les bons éléments. Moi, ce que vous allez le remarquer un peu là, dans mes candidats aux équipes qui ont bien fait, souvent, j'ai priorisé les joueurs d'importance. Donc, oui, on a perdu des éléments. Christian Dvorak est parti via le marché des joueurs autonomes avec les Flyers. Oui, t'as Joel Armia qui est parti avec les Kings. On y reviendra, les Kings. Emil Heinemann est parti, tout ça. Mais évidemment, t'as ajouté deux très gros morceaux. Noah Dobson, dans une transaction importante, t'ajoutes un des meilleurs défenseurs de la LNH qui a eu des problèmes l'an dernier, mais je pense qu'avec Martin Saint-Louis, ça va se relancer. Il est excellent en attaque. C'est quelqu'un que j'ai toujours adoré pour son intelligence. C'est pas le plus flamboyant sur une patinoire, mais il décoche les tirs au bon moment. Il est toujours très, très posé. Il va toujours prendre le bon geste pour économiser le plus d'énergie et toujours être très efficace. Zachary Bolduc, on en a parlé un peu hier par rapport à sa progression. Le fait qu'il a un excellent tir, c'est beaucoup amélioré pour jouer un petit peu mieux quand ça compte, de moins se faire brasser et tout ça, et de l'utiliser à son avantage. Trouver une façon de marquer pas mal plus. Il a été l'un des meilleurs de la LNH au niveau des buts après la pause de la confrontation des quatre nations. Donc, je pense qu'avec ces deux éléments-là, t'ajoutes vraiment un défenseur top 4 pour les prochaines années, qui est l'un des meilleurs déjà de la LNH. Et t'ajoutes d'autre côté un élément pour ton top 6 ou ton top 9. Là. Et honnêtement, oui, ça t'a coûté quelque chose, mais dans ta formation immédiate, ça n'a pas vraiment fait mal non plus. Là.
Non, effectivement, le Canadien, nette amélioration. Ils vont être très excitants à regarder jouer. J'ai très hâte que le camp d'entraînement s'amorce. Excellent, Marty. On a identifié tes 5 formations que tu as aimé le plus leur boulot depuis le début de la saison morte. Au retour de la pause... Celles qui t'ont laissé sur leur appétit, 5 équipes qui t'ont un peu déçu dans leur magasinage estival. Restez là avec Martin Thériault au retour. 7h48, vous êtes dans le Club du matin avec Anthony Desaulniers et Martin Thériault. On s'amuse. Marty nous dresse les 5 équipes qui ont le moins apprécié le travail qu'ils ont effectué depuis le repêchage. Voici Marty avec ton top 5. Numéro 1.
Premier rang, pas surprenant vraiment, on en a parlé lors de l'émission spéciale des joueurs autonomes un petit peu. Les Kings de Los Angeles. Ça fait plusieurs années que j'aime pas nécessairement le travail qu'on fait. En fait, c'est un peu méchant, mais c'est de me se demander si Marc Bergevin, qui est pas le directeur général, n'a pas un peu à voir derrière ça. On ajoute des joueurs vieillissants qui sont pas nécessairement rapides, qu'il y a des gros risques que ce soit des joueurs qui déçoivent. Et là, par moment, on leur donne des contrats à très long terme. Je pense à Brian Dumoulin, un gars qui va avoir 34 ans au mois de décembre. Tu lui donnes un contrat de 3 ans et de 4 millions de dollars par saison. J'étais 34 ans en septembre, plutôt. T'ajoutes un Corey Perry. Bon, je comprends qu'il est toujours très efficace en série. Je comprends qu'il ne ralentit pas. C'est quelqu'un qui est capable d'être hargneux devant le filet, capable d'ajouter une touche intimidante. Mais moi, personnellement, dans les séries, je trouve qu'il ralentit, ce qui est un peu normal. À un moment donné, il est vieillissant, mais là, t'ajoutes cet élément-là. T'sais, Yoel Armia, bon, ça, c'est un contrat qui est quand même pas si mal, mais t'sais, tu regardes les joueurs. Toi, un gars comme Cody, c'est ici également.
Ouais.
4 500 000 $ pour 4 ans.
C'est épouvantable.
C'est ça, t'sais, alors que t'sais, il a obtenu bon 24 points, mais t'sais, défensivement, c'est pas toujours facile. Beaucoup d'erreurs un peu dans sa zone, des mauvaises relances et tout ça. Donc, si tu regardes qu'est-ce qu'on est en train d'assembler, premièrement, les Kings, c'est une équipe qui a plus vraiment beaucoup d'espoir, alors qu'à un moment donné, c'était une équipe qui avait parmi les meilleures banques d'espoir. Et là, tu t'ajoutes un peu toutes sortes de vétérans comme ça qui sont un petit peu... qui sont un peu en perte de vitesse, qui sont pas nécessairement les plus rapides. Ben là, tu te demandes un peu où est-ce qu'on s'en va. T'sais, à un certain moment, on s'attendait à ce que les Kings soient parmi les puissances de la LNH. Puis là, ben oui, tu peux les voir en série, mais si tu dis encore qu'on affronte les Oilers d'Edmonton, ben je suis désolé, mais on va encore s'incliner, là, parce que ouais. Il manque vraiment de morceaux. Là.
Ah ouais, puis demander Corey Perry, je veux dire... Il se rendra pas en finale à tous les ans juste parce qu'il est là. Ça joue sur la glace quand même. Fait qu'effectivement, salutations à Greg Langto, animateur du Retour des sportifs, qui vient de texter un mot d'église parce que tu parlais en mal de ces Kings, Los Angeles, Marty. Équipe numéro 2, les Maple Leafs de Toronto. Vas-y, je t'écoute, Marty.
Ouais. En passant, pour Greg, là, j'aime encore beaucoup Brent Clark. Donc ça, c'est pas un problème. Là. C'est vraiment rien contre ça. Mais par rapport aux Maple Leafs, évidemment... tu pourrais dire, bon, on a ajouté quand même un peu d'éléments robustesse. On s'est ajouté un Dakota Joshua, notamment sur le quatrième trio. Bon, là, Michael Pezzetta, moi, je suis pas certain qu'il va être de la formation, mais bon, il est quand même dans les plans, il est quand même dans les attaquants supplémentaires et tout ça. Oui, on a ajouté Henry Trun dans une transaction que, selon moi, on a gagné en envoyant Ryan Reeves côté des Sharks de San Jose. Mm-hmm. Mais lorsque tu te départis de Mitch Marner, qui est 102 points, qui est un élément, je comprends que ça n'a pas toujours été facile en série, je comprends qu'il avait beaucoup de pression du côté de Toronto, mais il fallait quand même que tu trouves une façon de le remplacer. Oui, tu as été en mesure d'acquérir Mathias Macelli, un gars qui a eu 18 points avec une saison difficile l'an dernier en Utah, et qui, je pense, peut rebondir. Mais même si Macelli rebondit, c'est pas l'impact d'un Mitch Marner. T'as bien beau avoir un quatrième trio robuste, physique, qui est capable de bien jouer défensivement. On a ajouté Nicolas Roy dans la transaction avec Marner également. Il va faire un excellent travail sur le troisième trio. Sauf que là, la question, est-ce que tu as vraiment des éléments au sein du top 6 qui peuvent t'amener de la production offensive soir après soir? C'est sûr que tu as des Matthew Nye, c'est sûr que tu as Austin Matthews, tu as William Nylander, tu as John Tavares, mais tu as des gros points d'interrogation. Et si Matt Shirley produit, mais qui produit peut-être moins que ce à quoi on peut s'attendre, qui ne retourne pas dans les 50 points, par exemple. Là, tu demandes à des Bobby McMahon, des Scott Laughton, des... tu sais, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lesquels tu peux te baser. Et la défense des Maple Leafs, selon moi, est vieillissante. Un Morgan Riley qui a montré des gros signes d'inquiétude lors des séries, pas mal plus de revirements, pas mal plus de mauvaises décisions, et son jeu offensif a peut-être baissé un petit peu. De toute façon, Craig Berube l'utilise déjà de moins en moins. C'est un peu plus le duo de Jake McCabe et Chris Tanev qui est utilisé. Donc, honnêtement, je regarde ça et oui, on a ajouté des éléments. Oui, on s'est donné une identité plus physique. Mais à un moment donné, ça te prend quand même des éléments offensifs si tu veux gagner des matchs. Donc, c'est là que je suis un peu déçu.
Ouais, on l'a peut-être pas terminé. Il y a peut-être encore quelque chose qui s'en vient du côté des Leafs. Moi, je pensais vraiment qu'il allait être dans le Derby Healers. Finalement, ils l'ont pas eu. Mais ça va être intéressant de voir si c'est vraiment la formation définitive qu'on aura sur la glace pour le premier match de la saison régulière. Il nous reste 3 formations, Marty. Une autre formation qui déçoit pas mal année après année. Elle t'a déçu encore une fois durant la saison morte.
Ouais, les Sabres de Buffalo, hein. Écoute, Kevin Adams, là, tu sais, c'est clair que lui, présentement, il a la pression de participer aux séries. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas été en mesure de participer à la danse du printemps. Et là, tu vois qu'il est en train de faire toutes sortes de gestes un peu désespérés, d'ajouter des éléments de profondeur pour s'aider. Le problème avec ça, c'est que, premièrement, t'es comme trop bon pour aller viser peut-être un choix de premier plan. comme un Gavin McKenna, ça t'empêche éventuellement d'être parmi les puissances. Mais t'es pas assez bon quand même pour participer aux séries. Tu sais, si tu compares les Sabres aux Red Wings, aux Maple Leafs dont on vient de parler, aux Canadiens, des équipes comme ça, ben là, il manque des morceaux. Et là, tu regardes qu'est-ce qu'on a fait cet été. On échange JJ Peterka, qui, oui, je comprends, voulait partir. Oui, je comprends que c'était tu sais, il a demandé une transaction et tout ça. Il t'ajoute Michael Kesselring. Je comprends que c'est un défenseur droitier qu'on manquait. Et je le répète, il est quand même meilleur que ce qu'on peut penser, là. Il est très bon défensivement. Un bon bâton capable de bloquer des tirs et capable de transporter la rondelle aussi, c'est quelqu'un qui est quand même mobile et tout ça. Sauf que là, tu dis, tu échanges un joueur d'une soixantaine de points pour un Kesselring. Tu vas chercher alors un Josh Doan.
Alors que tu avais plein d'autres offres sur la table.
Ben, c'est ça, tu sais. Il semble-t-il qu'on avait Marco Rossi et peut-être même plus un peu pour un JJ Peterka. Ça, je pense que ça aurait été bien mieux. Là, par la suite, t'ajoutes des éléments de profondeur. T'as ajouté un Connor Timmins qui, en passant, est encore joueur autonome avec compensation contre Connor Clifton. C'est une transaction mineure. Ça, je la considère moins. Tu sais, pour le reste, on ajoute des Zach Jones. Il y a le marché des joueurs autonomes. Des Justin Danford. Et là, tu regardes cette formation-là. Qu'est-ce que ça peut donner? Oui, t'as Tage Thompson, ben, il est seul pas à peu près à Tage Thompson, tu sais. Ça risque d'être potentiellement un Josh Norris ou un Girgi Kulik au centre avec un Zach Benson qui, honnêtement, déçoit juste depuis son entrée dans la LNH. Je pense qu'il peut rebondir, mais c'est pas quand même pas fait. Et là, tu te dis, bon, qui on ajoute d'autre? Un Jason Zucker, Jack Quinn? Puis là, c'est ça le problème, c'est que tu commences à regarder qui sont les joueurs qui peuvent pousser. Oui, t'as des Noah Östlund et tout ça, mais il manque un peu de morceaux, il manque un peu de chair autour de là. Et encore une fois, ben c'est là que tu vois que Kevin Adams, c'est décevant, c'est d'ajouter à tout prix des joueurs un peu de profondeur, mais là, le problème, c'est que c'est au détriment des joueurs de talent, puis à un moment donné, ben, tu gagnes avec tes joueurs de talent. C'est encore une fois, c'est un état un peu décevant.
Là. Exact. Les Jets de Winnipeg, eux, ça reste une bonne équipe, ils ont quand même été terminés premiers l'année dernière, mais t'es pas satisfait de ce qu'ils ont fait durant la saison morte.
Ouais, pis c'est pas nécessairement surprenant. Tu sais que Kevin Cheveldayoff, peut-être un peu à cause du marché de Winnipeg aussi, là, il aime pas aller nécessairement sur le marché où les joueurs autonomes. Ça peut se comprendre la raison pour laquelle il a pas nécessairement accompli beaucoup de choses. Mais évidemment, lorsque tu perds Nikolaj Ehlers, c'est un gros morceau. C'est un attaquant de ton top 6. C'est quelqu'un qui était capable d'aller te chercher une cinquantaine, une soixantaine de points. Très créatif offensivement, capable d'apporter beaucoup d'attaques et qui est rapide. T'as pas été en mesure de le remplacer. Donc c'est là, malheureusement, que je les place parmi les perdant, c'est que là, bon, oui, peut-être un Gabriel Vilardi qui vient de signer quand même un gros contrat peut remplacer. J'en ai parlé hier, je pense qu'un gars comme Cole Perfetti peut avoir une belle explosion, peut remplacer en quelque part Ehlers, mais il en demeure pas moins que tu as des questions à te poser. Tu sais, oui, il y a Nido Niederreiter qui peut jouer au sein du top 6, t'as Alex Iafallo.
Faut que tu aies pas des éléments.
Comment tu dis ça?
J'entends Taze.
C'est ça. Mais Jonathan Tate, tu l'ajoutes, ça, c'est sûr que c'est un élément intéressant pour le deuxième trio et tout ça, mais ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas joué. Il faut quand même que tu te demandes est-ce que l'âge va le rattraper et tout ça. T'sais, c'est un gros point d'interrogation. C'est un bon coup pour l'élément local et je pense que le niveau leadership, au niveau expérience et tout ça, il est capable de t'apporter quelque chose. Mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression que la perte des Ehlers peut, entre guillemets, faire mal. En tout cas, du moins, tu peux avoir plus d'inquiétude. Et t'ajoutes aussi un Gustav Nyquist qui, moi, honnêtement, je le regardais un peu du côté du Wild du Minnesota, il a ralenti. C'est quelqu'un qui va avoir 36 ans en septembre. Il tente de travailler fort. Il tente d'aller dans les coins. C'est encore un gars intelligent, mais tu vois que la petite coche a peut-être été perdue. Donc, mais les Jets nous surprennent souvent. Souvent, c'est une équipe qui est en mesure de se démarquer malgré ça. Mais est-ce qu'on est en mesure de remplacer Ehlers adéquatement? Je pense pas. T'sais.
Il nous reste une dernière formation, Marty, et eux, ils ont déçu pas mal de monde durant la dernière année, c'est les Rangers de New York.
Ouais, et les Rangers que j'ai moins aimé, bon, tu sais, oui, évidemment, on a peut-être ajouté l'un des meilleurs joueurs autonomes disponibles via Vladislav Gavrikov, un excellent défenseur défensif. Lui également, très bon pour bloquer des tirs, très très bon dans sa zone. C'est un gars parfait pour aller complémenter un Adam Fox. En plus, il est encore dans la fleur de l'âge, il va encore très bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, du côté des Rangers, il manquait d'attaque. Tu regardes cette formation-là, puis on n'a pas ajouté grand monde. Là, c'est dommage. Là. Je serais pas censé en parler parce que c'est peut-être un gars qui va jouer dans la Ligue américaine. C'est un gars qui est surtout une vedette de la Ligue américaine et pas de la LNH. C'est Trey Fix-Wolanski, quelqu'un qui a été très bon dans l'organisation des Blue Jackets de Columbus. Mais je suis obligé d'en parler parce qu'à l'attaque, c'est mince et pas à peu près. T'as JT Miller potentiellement sur un deuxième trio, t'as Will Coyley, mais là, par la suite, c'est parce que je me trouve qu'un joueur à placer à l'aile du deuxième trio et je me pose énormément de questions. Tu peux avoir un Brett Berard qui a été bon dans la Ligue américaine, t'as Brennan Hartman qui tarde un peu à se mettre en marche, mais sinon, t'as pas trouvé d'éléments. Sinon, c'est des Taylor Radish et des... Je veux même pas parler de Matt Rempe, là, on placera pas Rempe sur le deuxième trio.
On peut-tu compter sur Gabriel Perreault pour faire le saut à temps plein?
Moi, malheureusement, je pense que Perreault a besoin de temps dans la Ligue américaine. Je pense que c'est quelqu'un qui manque quand même un peu de coup de patin et qui n'est pas nécessairement le meilleur jeu défensif. Je comprends que dans beaucoup de formations, tu le vois au sein du deuxième trio, mais moi, je pense qu'il gagnerait peut-être à aller dans la Ligue américaine. Et si on l'utilise dans la LNH, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être compliqué. Justement, au niveau Gavary, au niveau de jeu défensif, c'est pas toujours le gars qui revient le mieux dans son territoire. Et là, si tu penses à Perreault, si tu oublies Perreault, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux. Puis là, on parle du deuxième trio, mais même sur le troisième, tu te retrouves avec des Taylor Radish, des Brett Berard, avec plein de gars qui commencent à vieillir un peu, des Miller, des Mika Zibanejad. Bon, leur défense est quand même pas si mal. Là, t'as Will Borgen, t'as Carson Soucy, t'as quelques bons défenseurs défensifs. Mais moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'attaque, ça peut fléchir. Puis ça se comprend un peu sur une équipe qui repêche très mal depuis les dernières années. Mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas aidé nécessairement le côté offensif. Et ça que ça m'inquiète chez Rangers, c'est dommage parce que c'était une fichue de belle équipe il y a environ 4 ou 5 ans, ce que Jeff Gorton avait assemblé. Mais Chris Drury a un peu détruit ça, si
ouais, on veut. J'ai hâte de voir ce que Mike Sullivan va faire avec cette formation-là, lui qui est maintenant rendu entraîneur-chef avec les Rangers de New York. Marty, ça fait quand même 2 mois peut-être qu'on se parle là, tous les jours dans le club du matin. Bien content d'avoir fait ça avec toi mon chum, puis t'as été excellent, c'est souligné abondamment à tous les matins. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, c'est très apprécié.
Je te renvoie la balle, Désolé, ça a été un énorme plaisir. Très heureux d'avoir parlé avec mon bon chum pendant chaque matin, parler avec les auditeurs également. Puis ben on reprend ça assez vite, Désolé, je suis même pas inquiet.
Yes. Prends soin de toi, Marty, on s'en parle bientôt. Salut.
Merci, bye bye.